Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Case et Bulle, où Christole Seyek et moi-même allons vous parler de quelqu'un qui est mort il y a un mois et demi à peu près, Herman, géant de la bande dessinée franco-belge. Alors on dit géant assez souvent. Là, l'abondance de l'œuvre, la longévité de l'œuvre, le nombre de collaborations qu'Herman a eues avec de grands scénaristes comme Greg, par exemple, pour ne citer que lui, ou de grands journaux, Spirou et Tintin, évidemment, en fait une espèce de résumé de ce que la bande dessinée franco-belge a pu produire de meilleur de la fin des années 60 aux années 2020, même si, à mon goût, évidemment, les dernières années étaient moins bonnes, aussi bien pour ce qui est du dessin que pour ce qui est des scénarios. Vous a déjà parlé, Christole et moi, d'Herman, de ses obsessions, de son goût pour la violence, de son goût pour l'ordre, de son côté un peu ultra-libéral, de son côté Oberton, de le dire de cette manière-là, et de la manière dont, à force de critiquer les États, souvent à juste titre, et parfois juste pour le plaisir, évidemment, de souligner la méchanceté des temps anciens, il a fini par ne produire que des œuvres à la gloire de justiciers solitaires et de personnes en rupture de ban, ayant leur propre logique, avec d'ailleurs quelque chose d'assez pessimiste, d'assez sombre, dans la manière dont les scénarios finissent d'une manière jamais trop aimable, y compris quand il se met à dessiner sur des scénarios de Yves H., son fils, avec aussi donc cette évolution du dessin où il passe d'un dessin classique, mais avec une souplesse de traits, une minutie, une expressivité incroyable, à quelque chose en couleur directe, avec une touche qui devient un peu moins précise, un peu plus fondue et avec une palette de couleurs qui se resserre, comme si au bout du compte il n'y avait plus que la couleur de la glèbe qui prenait le pas sur le reste, et on avait l'impression dans ces dernières bandes dessinées de parcourir des champs champenois fraîchement labourés avec une terre jaune, grasse, molle, brune, dégoulinante de pluie. Donc c'était pas particulièrement agréable, même s'il y avait toujours cette capacité incroyable à représenter les corps, à représenter l'espace, à représenter la bataille. Bon voilà, j'ai essayé d'être rapide dans ma présentation d'Herman, mais c'est Christole qu'il vénère, enfin en tout cas qui a une grande admiration pour lui, à qui je passe la parole pour débuter cette évocation de ce grand monsieur.
Merci Richard. Alors, je dois avouer que j'ai peu lu les premières œuvres d'Herman, que toi, il me semble, toi, tu les connais bien, il me semble.
J'aime beaucoup Bernard Prince, mais voilà, on y reviendra après.
On y reviendra après. Alors, il est vrai qu'Herman, c'est un grand personnage de la bande dessinée. Quand on allait au Festival d'Angoulême et qu'on entendait des artistes, dessinateurs, scénaristes parler de lui, les adjectifs qui revenaient souvent, c'était facho, vieux con, réac. Je ne sais pas si c'est pour nous déplaire. Le fait est que lui, il y a un terme qu'il admettait bien, c'était « je suis le sanglier des Ardennes ». C'est tout dire, il aimait vivre dans la nature, loin des grandes villes, un peu solitaire, puisqu'il exécrait les injustices du monde passé et surtout du monde moderne. Et c'était un bourreau de travail qui devait créer deux BD par an, ce qui est très rare dans le monde des dessinateurs, parfois même trois BD, parfois quatre BD, dans les grandes années. Et effectivement, je crois qu'il a dû au total dessiner entre 150 et 200 albums, ça dépend si on compte les petits récits qu'il a pu dessiner dans sa jeunesse, ce qui est quand même extraordinaire dans une vie de dessinateur. Je voulais commencer par présenter la fin, c'est-à-dire son dernier album qui s'appelle Cartagena. À mes yeux, ça reste une bonne surprise dans l'œuvre d'Herman. J'aurais été désespéré qu'il achève par une œuvre sans le moindre intérêt et dont le dessin serait critiquable. Eh bien, je trouve que dans Cartagena, le dessin est sans doute supérieur à celui de son œuvre antérieure, Brigantus, qui se passait en Écosse. Et le scénario, en tout cas, le scénario correspond vraiment au code de toute l'œuvre d'Herman. On peut ainsi le lire, comme un album posthume, une sorte de véritable hommage à son esprit. Alors, dressons le tableau. Ce dernier album se passe au Mexique de nos jours. dans une ville imaginaire qui s'appelle Cartagena, qui donne le titre à cet album. Et bien, dans un quartier pauvre, nous avons un jeune désœuvré qui s'appelle Alvaro, qui a tout de suite compris qu'il a le choix entre être pauvre, malheureux, ou bien participer au trafic de drogue en étant un petit guetteur, gagner quand même pas mal d'argent, en gagner de plus en plus et pouvoir s'acheter une voiture, séduire une jolie fille et pourquoi pas acheter une maison. Mais il sait que dans cette deuxième voie, il finira probablement une balle dans la tête à l'âge de 25, 30, 40 ans. Eh bien, il choisit la deuxième voie, celui d'être un petit guetteur dans le cas du trafic de drogue, mais tout simplement pour survivre. Et encore une fois, on voit que ce personnage ne porte aucun jugement moral, souvent comme dans les œuvres d'Hermann, si ce n'est qu'un jour, son supérieur lui demande, pour faire ses preuves, d'éliminer deux individus attachés dans un bâtiment. Et là, tout dérape, puisque le jeune Alvaro, s'il élimine les personnages, après, il est pris d'un coup de folie et il tue son supérieur, qui n'est autre que le neveu du chef du cartel de la drogue, qui s'appelle Arriega. Et donc, il comprend tout de suite qu'il n'a qu'une seule solution, fuir, peut-être aux États-Unis, mais pour son plus grand malheur, enfin, je ne vais pas tout dire, une personne va l'aider dans sa fuite, c'est un policier tenace qui s'appelle Félix Garzón, et qui, en vérité, a pour objectif non pas de sauver le jeune Alvaro, mais d'arrêter Arriega. Et dans les dernières planches, on découvrira quel est le véritable rôle joué par ce policier pour en conclure, comme souvent dans le monde d'Hermann, que décidément, tout est pourri. C'est un peu l'atmosphère de ce récit qui, tu en conviendras, nous rappelle exactement l'ambiance, l'esprit qu'on retrouve dans la plupart des œuvres d'Hermann. En tout cas, ce qui est plaisant aussi, c'est que même si on ne sait pas que le dessin est d'Hermann, il suffit d'ouvrir l'album pour retrouver ses traits caractéristiques. Et par exemple, il a pour habitude de dessiner les personnages masculins et même féminins avec des mâchoires carrées, souvent des personnages torturés dans une ambiance sombre, une ambiance tragique. Il travaille en couleur directe depuis une trentaine d'années, je dirais, mais souvent des couleurs sombres aussi pour coller au récit. Il a un trait caractéristique et moi j'aime bien pour ma part les dessinateurs qui ont vraiment une touche caractéristique, identitaire. On peut ouvrir l'un de leurs albums, on reconnaît leurs pattes et on se dit que c'est quand même une œuvre intéressante. Alors ensuite, Hermann. Hermann, bah, il est, si on veut faire un petit tracé de son parcours, il est né en Belgique en 1938, son vrai nom c'est Hermann Huppen, et ce qui est amusant c'est qu'il n'a pas pris de cours de dessin dans sa jeunesse, il était ébéniste, il a obtenu un diplôme d'ébénisterie, et ensuite un petit peu de dessin d'architecture pour s'amuser, et c'est par son mariage qu'il rencontre donc son beau-frère, le frère de son épouse, et que celui-ci devient directeur éditorial chez Dupuis. Et donc, son beau-frère lui dit, bah, écoute, Hermann, tu as quand même un joli coup de crayon, tu peux peut-être participer à quelques histoires de l'oncle Paul. Effectivement, Hermann commence par des histoires de l'oncle Paul, et très rapidement, chez Dupuis, il va dessiner Bernard Prince, sous un scénario de Greg, et puis après suivront Jugurtha et Comanche. Et je crois que tu aimes bien, Richard, ces premiers récits, ces récits de jeunesse.
Alors oui, alors d'une part parce que voilà, il y a chez Hermann ce côté docile que pouvaient avoir les scénaristes à l'époque, c'est-à-dire on sentait que l'époque était au western, ben très bien, quelqu'un proposait une série de western, l'époque passait aux policiers, on proposait une série policière. Donc Bernard Prince, ça fait partie de ces excellentes séries que Greg lance. Et qu'il abandonnera, hélas, parfois dans des conditions bizarres, c'est-à-dire brusquement. Et donc Bernard Prince est un aventurier aux cheveux blancs, qui est un ancien policier qui a finalement décidé de naviguer autour du monde avec un second qui est un vieil alcoolique qui s'appelle Barney Jordan, leur fils adoptif, entre guillemets, qui est un petit orphelin indien qu'ils ont recueilli. On se dit tout de suite, voilà, un trio d'hommes avec un gamin, mon Dieu, que se passe-t-il? Et, bah, à l'époque, tout ça paraissait parfaitement normal, tout ça paraissait parfaitement innocent, et évidemment, d'ailleurs, c'est totalement innocent. Il y a le gamin est là pour animer, si j'ose dire, avec quelques bêtises et beaucoup de jeunesse. Le trio Barney Jordan est une espèce de version de Capitaine Haddock qui n'a pas du tout gagné Moulin Sart et qui n'est pas du tout devenu riche et qui est resté voilà un loup de mer un peu déjeté et un peu rejeté surtout. Et Bernard Prince, voilà, c'est typiquement le héros grec, voilà, un peu asocial mais pas trop, grand cœur mais bourru. Voilà, et Bernard Prince vraiment nous promène depuis le Général Satan, qui est le premier épisode de Bernard Prince en 1969, jusqu'au dernier épisode dont je cherche désespérément le nom en même temps que je suis en train de vous parler. Voilà, Bernard Prince d'hier et d'aujourd'hui, qui est paru en 1980, mais qui en fait était un recueil. Voilà, c'est Le Port des Fous en 1978, avec des aventures qui sont des aventures profondément humaines en fait. Il y a bien sûr des grands méchants, il y a bien sûr de grands bandits, qu'il s'agisse de politiciens véreux, de dictateurs. Ou de bandes armées, mais fondamentalement, ce qui intéresse Bernard Prince, c'est de sauver les gens, de les aider à se sortir d'un incendie, d'aider ceux qui sont délaissés en fait par le grand courant. Le dessin est déjà remarquable, déjà vif. C'est l'époque où d'Archie Cash, quelques années plus tard, dans Spirou, on a véritablement un renouveau de la bande dessinée d'action avec des héros moins infaillibles que Jean Valardi, moins espiègles que Marc Dacier. On commence à descendre d'un cran, les héros prennent un visage humain, en tout cas, ont des aventures humaines. Tout ça reste bien sûr dans les codes de la bande dessinée de l'époque. C'était édité par Le Lombard, autrement dit, ça paraissait dans le journal Tintin. Et c'est vraiment très bien. Et justement, juste après, eh bien, il va y avoir Comanche, qui est une série dédiée au western. Et puis après, Jugurtha, deux albums sur la guerre des Romains contre les Carthaginois. Et à chaque fois, Herman réussit à se glisser avec discipline et talent dans des univers très différents jusqu'à ce qu'il nous gratifie de comment s'appelle-t-il, Jérémia, dont on
Jérémia,
parlera plus
voilà.
tard.
Ouais. Eh bien, on peut en parler dès maintenant parce que on
Alors,
arrive en
si tu veux
1900.
en parler tout de suite, dans ce
Oui.
cas-ci, je vais me permettre de dire, ben, petit appel au don, voilà, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine. On a 5, selon l'étude Médiamétrie, on a 5,2 points d'audience sur Paris-Île-de-France. Europe 1, à la même époque, était à 6,1. Donc voilà, Radio Courtoisie est une radio qui compte. C'est grâce à vous tous qui permettez à toutes ces émissions d'exister, en permettant d'avoir un très bel outil technique qui nous permet de diffuser tout ça, urbi et orbi. Et voilà, si jamais vous êtes quelques milliers de plus à nous soutenir, même modestement, 5 euros, ça suffit. Eh bien, nous sommes assurés de pouvoir très bien continuer.
Donc nous sommes en 1977 et Herman sort sa première série solo en tant que scénariste et dessinateur, c'est Jérémia. L'idée lui en est venue en lisant Ravage de Barjavel. Effectivement, il imagine dans un monde post-atomique une société aux États-Unis ravagée par une guerre raciale entre blancs et noirs où règne énormément d'injustices. Il y a pas mal d'albums qui dénoncent la violence, la pédophilie. Beaucoup également, c'est un cheval de bataille d'Herman, beaucoup dénoncent l'obscurantisme religieux. Et on suit le parcours de ces deux héros. Jeremiah, c'est un personnage qui est plutôt droit au début, plutôt honnête, et qui va progressivement être contaminé par ce monde assez dur. Et son ami Kurdi, qui lui est une crapule, qui se raccommode parfaitement d'un monde dur, il en tire profit et se le convient parfaitement. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'Herman, non seulement dénonce la dureté du monde passé, du monde actuel, mais qu'il n'imagine dans le futur la même dureté qui serait donc, sans doute selon lui, inhérente à l'espèce humaine. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'a aucun espoir à travers la religion. Je pense que dans toutes ces séries, il est possible qu'il ait jamais dit du bien du monde religieux. Pour lui, c'est une sorte de comment dire comment
C'est un
pourrait-on
système
définir?
oppressif parmi les autres, c'est une
Voilà,
hypocrisie, c'est
c'est
une
ça.
superstructure produite par le capitalisme, le racisme, enfin ce que vous voulez. De toute façon, voilà, à partir du moment où il s'agit d'un ordre religieux constitué, bah, c'est mauvais. On a l'impression de retrouver ce qui se passait dans les bandes dessinées de Rohan, où chaque fois qu'il y avait un sorcier, le sorcier était pourri,
C'est
ou
ça.
dans les versions contemporaines. D'une certaine manière, de ce qu'ont pu être Astérix à l'époque, c'est-à-dire les bandes dessinées scénarisées par Arleston, la série du monde de Troie notamment, où là aussi, chaque fois qu'il y a un culte constitué, évidemment, les prêtres sont ou des menteurs ou des crétins. Donc il y a vraiment l'anticléricalisme du XXe siècle qui sue à travers les œuvres d'Hermann, mais tu as raison de le souligner. Cette espérance divine est toujours à part, mais en même temps, il ne ta... il ne... le fait d'avoir un culte constitué n'est pas non plus un ressort constant de ces albums, alors que chez Arleston, vraiment, le fait de constituer une église comme étant un grand méchant contre lequel lutter est là, en revanche, très clairement inscrit dans dans sa manière de structurer à peu près tous ses récits. Donc, chez Hermann, voilà. Quand passe une religion constituée, on sait que c'est pas bien, mais à côté de ça, voilà, il y a des valeurs d'humanisme, de générosité, de courage, de camaraderie, de solidarité. Voilà, c'est comme d'habitude un monde chrétien qui refuse de regarder ce qu'il peut avoir de proprement chrétien dans ce monde-là.
Et pour ma part, je trouve que énormément d'albums de Jeremiah m'ont déçu quant au scénario, où les premiers albums sont intéressants, puis après, c'est comme s'il avait épuisé tous les ressorts dramatiques qu'il avait en tête. Et beaucoup d'albums, notamment dans les derniers, n'ont que peu d'intérêt scénaristique. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas réussi à creuser toutes ces idées qu'il pouvait avoir dans un monde post-atomique. Mais en tout cas, en 1984, comme tu disais, suivant le mouvement de ce qui fonctionne à l'époque, il lance une grande série historique. Effectivement, c'est l'époque de la grande collection vécue de chez Glénat. Et lui, il imagine un monde qui se passe à l'époque médiévale au XIIe siècle. Ça s'appelle Les Tours de Bois-Maury. Et c'est l'histoire d'un chevalier, Aymar de Bois-Maury, qui a été dépossédé de son château familial et qui va mettre une dizaine d'albums à tenter de reconquérir la terre et le château de ses ancêtres en parcourant le monde occidental européen et même en participant en croisade. Et effectivement, au cours du dernier album, l'album numéro 10, le dixième, il parvient enfin à reconquérir son château, mais c'est alors qu'il reçoit une flèche, il meurt. À cet instant-là, l'un de ses enfants, enfin son enfant, naît. Et effectivement, on comprend que la série n'est pas morte. La série Les Tours de Bois-Maury va être poursuivie par la série Bois-Maury, qui nous présentera au travers des siècles différents descendants de ce chevalier pour nous faire comprendre, découvrir leurs aventures au cours des 13e, 14e siècles et encore une fois peut-être en participant aux croisades. Effectivement, ici aussi dans cette série, Hermann se donne à cœur joie pour bien montrer les épidémies, les famines, les pillages, la vie des paysans est atroce. Mais ceci dit, au point de vue du scénario, c'est une série qui se lit très bien. Chaque album apporte un élément nouveau et c'est une série qu'on peut lire du début à la fin, à mes yeux, avec un certain bonheur, si ce n'est qu'il faut avoir en tête qu'elle n'est pas vraiment, elle n'est pas très réjouissante. C'est pas l'histoire du chevalier preux qui va défendre la princesse. C'est vraiment le
Voilà,
monde dur de l'époque médiévale.
on est très loin de Prince Vaillant ou de Chevalier Ardent de François Kreinhals, voilà, François Kreinhals, voilà, qui est mort depuis un certain temps, et voilà, qui faisait partie de ces auteurs qui avaient une espèce de double vie, puisque d'un côté, c'était des bandes dessinées avec un trait très simple et comique, et de l'autre côté, voilà, une bande dessinée avec des thèmes plus adultes, je veux dire, enfin, non pas que ça basculait dans un quelconque érotisme, mais voilà, avec de vraies histoires de vengeance, de pouvoir, et un trait plus charbonneux et plus intéressant. Avec la bande dessinée Les Tours de Bois-Maury, ce qui arrive, c'est que Herman rencontre son fils, si j'ose dire, c'est-à-dire que Yves H., donc le fils d'Herman, devient scénariste des œuvres de son père. Et donc c'est avec le tome 12 des Tours de Bois-Maury que Yves H. débarque, donc en 1987, un truc dans ce goût-là, dans l'univers de son père, et il va dorénavant patronner toute la production de... Enfin, il va collaborer à toute la production de son père, et notamment tous les albums qui sont une histoire close sur elle-même. Monsieur Vendis Sandy, par exemple, des albums des années 90, assez remarquables. Sarajevo Tango, tout ça qui est paru chez Dupuis, où brusquement, Herman sortait de la mécanique de la série, c'est-à-dire la mécanique mise en place par les éditeurs de bande dessinée, où il s'agissait à chaque fois... En fait, de trouver la martingale, et si un héros marche bien, eh bien, on tente le deuxième album, et à partir du troisième album qui fonctionne, voilà, l'auteur est enfermé, si j'ose dire, dans cette cage, il est mis sur des rails, il est avec interdiction d'en sortir, et donc on se retrouve avec des séries gigantesques, voilà, Bogdani, etc. Et d'ailleurs, Jérémia, d'ailleurs, est la seule série, il y a 42 albums, dont Herman est conservé jusqu'au bout, en tout cas sur ce qui est affiché sur les albums, le scénario, la couleur et le dessin. Donc il fait tout, et ce qui explique d'ailleurs en partie d'ailleurs cet essoufflement et le fait que passé les 20 premiers albums, on a l'impression d'une errance sans fin dans une Amérique totalement délabrée. Alors ça peut être amusant, mais c'est vrai que l'inventivité et la couleur des premiers albums, la richesse des thèmes, le côté un peu fantastique et science-fiction, disparaît au profit d'histoires pénibilissimes à souhait. On a juste l'impression, indépendamment de l'excellence du dessin, d'être plongé dans ces séries nordiques où le flic est dépressif, sa compagne est suicidaire. De toute façon, ils sont tous les deux avec des parents incestueux et ivrognes, et eux-mêmes n'ont réussi qu'à produire des adolescents rebelles et suicidaires dans une société rebelle, suicidaire, ivrogne et incestueuse. Donc voilà, c'est pénible. Ça met le moral à zéro. Yves H. Néanmoins apporte justement à son père des scénarios différents où il n'est pas en train d'explorer un territoire, une époque, il est en train surtout de se lancer dans la critique contemporaine. Et donc Sarajevo Tango, eh bien, c'est la guerre en Yougoslavie, et tous les autres albums permettent en fait de mettre en scène, et y compris dans Cartagena, le dernier album dont tu nous parlais, un monde contemporain. Évidemment, Yves H. est le fils de son père, non pas pour exalter des héros admirables, mais pour montrer à quel point les innocents continuent à être malmenés par les puissants. Mais voilà, ça change complètement les récits, et Herman, à nouveau, qui avait su magnifiquement se mettre au service de Greg et qui après n'avait pas trop apprécié les autres scénaristes, là, se range sous la houlette de son fils et produit de très bons albums.
Effectivement, parallèlement à ces grandes séries qu'on a citées, Herman, après, s'adonne à des albums indépendants que parfois on appelle, enfin jamais nous, on ne les appelle pas des one-shots, mais c'est un terme atroce, mais ce sont des albums indépendants. Et parmi ceux-ci, il y a Sarajevo Tango. Il y a aussi Katinga, qui est de qualité, et Lune de guerre, scénarisé celui-ci par Jean Van Ham, qui décrit un mariage entre deux familles, qui finit par des viols, des coups de fusil. C'est atroce, mais c'est quand même très plaisant à lire. Également, un album sur Vlad l'Empaleur. C'est-à-dire, il s'agit d'un album sur Dracula, le dragon, mais le personnage historique, ce prince réputé sanguinaire de l'actuelle Roumanie, de la Valachie de l'époque, qui a donné lieu plus tard au personnage romancé du comte Dracule, le vampire. Mais là, on découvre le personnage historique qui avait réussi à faire fuir une invasion des Turcs en empalant dans un champ tous ses ennemis, et les Turcs ont pris la peur, ont été paniqués par voir un tel prince assoiffé de sang, et ont préféré rentrer en Turquie. Bon, un album assez plaisant à lire. Sinon, dans son œuvre, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il a pu citer, réaliser d'intéressant. Et je reviendrai quand même sur ce qui est plaisant chez lui, c'est qu'il disait ce qu'il pensait, et parfois ça dérangeait franchement le monde de la bande dessinée. Il faut savoir que pendant des décennies entières, au Festival d'Angoulême, on se demandait si Herman méritait le prix de l'artiste de bande dessinée de l'année, la consécration suprême. C'est le grand prix du Festival d'Angoulême. Eh bien, par ses dessins, son scénario, oui, mais à cause de son tempérament, beaucoup s'y opposaient. Par exemple, lors d'un festival d'Angoulême, il s'était énervé contre les musulmans, les islamistes, notamment par rapport au sort réservé par l'islam aux femmes. Il ne comprenait pas, c'est ce qu'il expliquait, comment une religion pouvait récompenser ses guerriers en leur promettant des jeunes filles vierges dans l'au-delà. Et il hurlait, je sais très bien que j'aurai jamais le Grand Prix d'Angoulême, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Et on imagine le personnage. Et bien malgré tout, en 2016, pour mon plus grand plaisir, ça fait 10 ans, le jury a fini par lui décerner le Grand Prix du Festival d'Angoulême, cette consécration suprême. C'était quand même l'occasion de se dire que tout n'était pas pourri au Festival d'Angoulême.
Voilà, et que tout est possible. Voilà, j'espère, sinon, qu'on vous a donné envie de lire l'œuvre complète d'Hermann, qu'on vous a donné envie d'en lire certains des albums. Voilà, ouvrez-les avec précaution, ne les laissez pas tous traîner sur la table du salon, à part les Bernard Prince. Et d'ici là, bonne lecture, et on se retrouve la semaine prochaine, non pas consacrée à Hermann, mais à l'actualité de la bande dessinée. Merci beaucoup.